d'Ouimane.
Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le secrétaire général de la société CloudOne, dont des membres ont été arrêtés hier, nie offrir des monnaies virtuelles, mais la Banque centrale du Burundi, la BRB, persiste et signe. Il s'agit bel et bien de la crypto-monnaie. Et le porte-parole du ministère de la Santé publique affirme que les textes régissant l'usage de la carte d'assistance médicale permet aux patients de se faire soigner toutes les maladies au centre de santé et aux hôpitaux de district. Vous l'entendrez donner d'autres précisions. Les difficiles communications entre les communes de Guichoui et Bukirasazi en province de Gitega, le pont se trouvant sur la rivière Nyabuhuna s'est déjà écroulé à cause de fortes pluies. Reportage à suivre dans ce journal. Et dans la rubrique « Parle, rassure-moi », l'on parlera de la déshumanisation à travers le langage. Voilà pour le sommaire.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Rebonjour. Les textes régissant la carte d'assistance médicale CAM permet aux patients de se faire soigner toutes les maladies au centre de santé et aux hôpitaux de district. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Jean Bosco Gilukwishaka, précise toutefois qu'aux hôpitaux nationaux, des maladies nécessitant des médecins spécialisés ne sont pas prises en charge par la CAM. Suivez-le.
Le patient doit d'abord s'adresser au niveau du centre de santé. Si on trouve qu'on ne peut pas le soigner, c'est le centre de santé qui le réfère à un niveau supérieur qui est à cette fois-ci l'hôpital de district. Ici, il se trouve dans l'incapacité de traiter la maladie, de pouvoir donc référer le malade à un hôpital de référence nationale. La carte d'assurance maladie couvre le paquet minimum d'activités qui est offert au niveau du centre de santé et les couvre en plus le paquet complémentaire d'activités qui est offert au niveau de l'hôpital de district. Donc, vous comprenez qu'au niveau de l'hôpital de référence nationale, en plus du paquet complémentaire d'activités, il y a d'autres services. Alors, ces services, surtout des services spécialisés, ne sont pas couverts par la carte d'assurance maladie. C'est à ce niveau que le plus souvent donc se pose le problème. Il y a des cas d'urgence qui sont autorisés par la loi dans lesquels le patient ou le malade peut directement consulter, aller dans un hôpital de référence nationale. Je peux vous donner un exemple, c'est l'accident de la voie publique. Le patient tombe en hypoglycémie, il est diabétique. Donc, il ne peut pas commencer à aller au niveau d'un centre de santé. Le patient est hypertendu. Bon. Donc là, il peut directement consulter l'hôpital. Au niveau des autorités sanitaires, surtout de CEFOSA, nous les interpellons à veiller à ce que la loi puisse être respectée, à faire le contrôle régulier au niveau des prestataires de soins pour voir si la loi est respectée, pour voir s'il n'y a aucun patient qui est lésé, alors qu'il pouvait bénéficier de tel ou tel autre service qui est couvert par la carte d'assurance maladie.
Docteur Jean Bosco Gilukwishaka, c'est le porte-parole du ministère de la Santé. Vous saurez qu'il s'est exprimé après les lamentations des patients qui se sont vus refuser d'être soignés en possession de la carte d'assistance médicale, le CAM. Ces patients avaient précisé qu'ils avaient été référés en provenance des hôpitaux des districts. Le code électoral prévoit qu'avant les opérations de vote, le président du bureau électoral s'assure que les urnes sont vides. Cela en présence des membres du bureau électoral, des mandataires des partis et des coalitions des partis politiques ou des indépendants. L'article 47 montre que, en cas d'impossibilité absolue d'assumer son mandat, un membre du bureau procède à son remplacement dans le souci de préserver les équilibres. Charles Makoto revient ici sur le déroulement des opérations de vote.
Le code électoral prévoit qu'en cas d'empêchement absolu du président du bureau de vote, celui-ci est remplacé par un membre le plus âgé, ce dernier étant lui-même remplacé par une personne désignée par les autres membres du bureau parmi les électeurs présents. L'article 50 prévoit que les personnes qui établissent des raisons professionnelles les placent dans l'impossibilité absolue d'être présents au lieu de vote peuvent procéder aux procurations ainsi que les femmes en couche, les malades malades et les handicapés qui, en raison de leur état de santé ou de leurs conditions physiques, sont dans les possibilités absolues de se déplacer jusqu'au lieu du scrutin. Le porteur d'une procuration doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur le même rôle électoral que le mandat. L'article 53 indique qu'il est annexé au procès verbal des opérations de vote et des résultats la liste des noms des électeurs mandataires et leur mandat au fil et à mesure du déroulement du vote. Il est interdit aux électeurs de se présenter à l'intérieur ou aux abords du bureau de vote en armes ou en troupes organisées. Les agents de l'ordre ne peuvent pas être placés à l'intérieur ou aux abords immédiats du bureau de vote, sauf en cas de réquisition par le président du bureau de vote. À son arrivée sur le lieu du scrutin, chaque électeur présente au président du bureau de vote sa carte d'électeur ainsi que sa carte nationale d'identité ou toute autre pièce d'identification reconnue par la Commission électorale nationale indépendante. Après vérification de la qualité de l'électeur, les membres du bureau de vote pointent son nom sur le rôle, lui remet le bulletin de vote par type du scrutin. L'article 58 montre que l'électeur qui n'est pas porteur ni de sa carte d'électeur ni des documents requis pour justifier son identité ne peut pas être admis au vote. L'article 50 montre qu'après l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote ne peuvent s'abstenter que pour une brève durée et à tour de rôle. À la fin des opérations de vote, le président du bureau de vote prononce la clôture du scrutin en présence des membres du bureau de vote, des mandataires, des partis politiques, des coalitions des partis politiques ou candidats indépendants et des trois témoins choisis parmi les électeurs présents. L'article 62 indique qu'après les opérations de vote, les membres du bureau de vote, les mandataires des partis politiques, des coalitions des partis politiques et les candidats indépendants contresignent avec le président du bureau de vote le procès verbal des opérations de vote et des résultats.
Merci Charles Makoto. La société CrowdOne Burundi nie offrir des monnaies virtuelles aux crypto-monnaies. Godefroy Ndaritezimana, secrétaire général de cette société, explique plutôt qu'il s'agit d'une société de commerçants en ligne. Selon lui, la société CrowdOne est conforme aux lois du Burundi. Il réagit après des arrestations ce mardi contre les membres de cette société. On l'écoute, il est au téléphone avec Elini Bel Niwigira.
Nous voulons signaler que CrowdOne est une société agréée parce que nous ne pouvons pas faire nos travaux sans toutefois être dans l'égalité. La microfinance, c'est l'un de nos projets, mais nous avons d'autres projets. Par exemple, ça ne signifie pas que nous sommes des actionnaires d'une microfinance seulement, parce que nous sommes également des actionnaires de CrowdOne, parce que CrowdOne travaille avec d'autres sociétés, comme par exemple Cafiligo, qui est chargé de jeux, et Migesta, qui est chargé de sport. C'est-à-dire, si tu es membre de CrowdOne, c'est-à-dire, automatiquement, tu es actionnaire dans CrowdOne. Mais être actionnaire dans ce projet de microfinance, c'est par volonté, c'est pas obligatoirement.
Vous êtes accusé d'être une société crypto-monnaie alors que c'est illégal au Burundi.
Nous voulons également signaler que nous ne sommes pas une société de crypto-monnaie, parce que les sociétés de crypto-monnaie sont les sociétés de Bitcoin, Ethereum et autres.
On vous accuse également de chercher à escroquer la population.
Non, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de lamentation qui dise qu'ils ont été escroqués. Cela vise d'autres choses que nous ne connaissons pas. Et parce qu'il y a du temps à attendre des lamentations, déjà qui se lamentent qu'ils ont été escroqués.
Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie avec la Banque de la République du Burundi?
En ce qui concerne le contrat avec la Banque centrale du Burundi, en rapport avec la microfinance, mais pour le moment, parce que la microfinance n'est pas en cours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat avec la BRB. Il faut attendre avec la microfinance. Ce sont des choses individuelles, chacun a son compte et chacun a son contrat avec la société.
C'était le secrétaire général de la société CrowdOne Burundi, Godefroy Ndaritezimana, au téléphone avec Elini Bel Niwigira. Au niveau de la Banque de la République du Burundi, l'on affirme que cette société CrowdOne fait des monnaies virtuelles. Cette banque rappelle que dans son communiqué du 20 septembre de l'année dernière, elle avait déclaré que la crypto-monnaie est interdite au Burundi. La Banque centrale explique que ces opérations causent des problèmes en cas de faillite des sociétés ou de l'arrêt de leurs activités. Au sein de l'agence de promotion des investissements API, l'on dit être au courant de l'agrément de la société CrowdOne en décembre dernier. Serge Nsabimana, directeur ad intérim de cette agence, dit que parmi les missions de la dite société figurent le commerce en ligne et la création de l'emploi. Également dans l'actualité, la capitale politique de Gitega prévoit dans un délai de 2 semaines une restructuration du transport en termes d'aménagement des parkings et une couleur unique pour les taxis-voitures. Cette décision a été prise ce mardi à l'issue d'une réunion de l'administration avec les représentants des transporteurs et des passagers. Le commissaire provincial de la police à Gitega dit s'attendre à une diminution sensible des accidents puisque les taxis-vélos et les taxis-motos ne seront plus permis d'accéder au centre-ville. Reportage Arthur Kavabouch.
Umunsi wose kila gituro tuzoba tucinjiye izinyigo twafashe zija zija mu ngiro.
C'est le conseil principal du gouverneur de Gitega qui indique que les nouvelles mesures réglementant le transport urbain dans la ville de Gitega dans le but de faciliter les citadins et ceux qui visitent cette ville. Gérard Nibigila dit qu'à Gitega, il y a des voitures qui sont prises pour des taxis alors que c'est faux car elles n'ont pas de couleur spécifique et leurs propriétaires n'ont que 2 documents certifiant que c'est pour les affaires et promenades et non pas pour le transport rémunéré. Ce conseiller indique que ces taxis vont stationner tout près de la station Engen sur la route Kombo-Kombo et au parking de Masanganzira. Quant aux tarifs de déplacement en taxi, le conseiller principal du gouverneur fait savoir que pour des courses ne dépassant pas les quartiers proches de la ville, le tarif est de 3000 francs bourg. Le commissaire provincial de la police à Gitega indique que ces mesures de distribuer les secteurs de travail pour les taxis-vélos, les taxis-motards, les taxis-voitures ainsi que les bus vont diminuer sensiblement les accidents de roulage qui emportent des vies humaines et des biens. Vous saurez que l'agence de voyage Volcano a déjà disponibilisé 2 bus de 100 personnes chacun qui vont assurer le transport des personnes dans la ville de Gitega et à 400 francs-bourg. Et cela va commencer le 4 février 2020, le jour du premier anniversaire comme capitale politique. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro.
Merci Arthur. Certains habitants du quartier Ngengabusoro de la zone Kanyosha au sud de la capitale Bujumbura disent que leurs maisons sont menacées par des inondations dans cette période pluvieuse. Ces habitants estiment que cette situation est due à l'arrêt des travaux de viabilisation de ce quartier. Ils demandent aux concernés de reprendre ces travaux. Moïse Misako.
Ces habitants d'Ongengabusoro indiquent que les travaux de viabilisation de leur quartier ont été suspendus bientôt 2 ans. Des routes déjà tracées n'ont pas de caniveau, déplorent ces habitants. Ils attendent la reprise de ces travaux, ajoutait-il.
En 2018, ces travaux ont été suspendus. Jusqu'à présent, nous attendons toujours que les travaux reprennent. Vous voyez, les routes sont impraticables, pas même des caniveaux. Les maisons sont détruites.
Il y a 2 ans que les travaux ont été suspendus. Des routes ont été tracées, mais sans canalisation. Des eaux de ruissellement emportent nos cultures et endommagent nos maisons. Des ravins menacent des maisons et des routes. Ces dernières deviennent impraticables. Des voitures et vélos ne circulent plus dans cette localité à cause du mauvais état de ces routes.
Ces habitants du quartier Ngengabusoro disent que cela entraîne des inondations suite aux pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours.
Là en haut, on continue à construire des maisons en dur. On aimerait aussi vivre dans des belles maisons avec des tours, mais ces derniers laissent couler beaucoup d'eau qui manque de canalisation et puis inondent nos maisons. Nos maisons sont inondées, nous sommes victimes, nous n'avons pas là où dormir.
Ces habitants demandent la reprise des travaux de viabilisation de ce quartier.
Et l'administration de la commune Moura déplore que les travaux de viabilisation de Ngengabusoro aient été arrêtés suite aux problèmes financiers. Kaboura Daniel dit toutefois que les travaux déjà réalisés sont à une étape satisfaisante. Il appelle lui aussi les autorités concernées à résoudre cette question. Suivez-le, il est au téléphone de Linibel Nimegira.
Je dirais que les travaux n'ont pas été suspendus, mais ils ont été pu arrêter et par manque, je dirais, des moyens et aussi, tu sais que c'est le Bourra qui s'occupe des indemnités des gens qui possédaient des maisons qui doivent être détruites dans ces quartiers pour que les routes soient aménagées. Nous attendons que les travaux soient en train d'être aménagés. Ils sont vraiment à un niveau important parce qu'ils attendent à ce qu'ils aient les indemnités.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il s'agit d'un retard à considérer les menaces qui pèsent sur les habitants des environs? Que ces eaux provenant de cet espace menacent les habitants des environs?
Effectivement, nous admettons qu'il y a un retard notoire et vous savez que les travaux d'aménagement dans ce quartier ne datent pas d'hier. Les populations qui y habitent vraiment sont découragées. C'est pourquoi nous en sommes un appel vivant à tous les concernés de tout faire pour que les travaux soient vraiment entrepris et que ce quartier soit aménagé au profit de ceux qui peuvent y habiter et ceux qui habitent en amont.
Parlons toujours infrastructure. Le pont se trouvant sur la rivière Nyabuhuna de la route reliant la commune Guichoué à celle de Bukirasazi en province de Gitega s'est déjà écroulé suite aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la commune Guichoué ces derniers jours. La conseillère de l'administrateur communal Guichoué, chargée des affaires sociales, reconnaît leur incapacité à pouvoir réhabiliter ce pont et demande une aide d'urgence auprès du gouvernement et des bienfaiteurs. C'est un reportage de Vestine Boutoui.
Nous sommes tout près du pont déjà écroulé situé sur la rivière Nyabuhuna, séparant la colline Nyakigina de la colline Bukwavu en zone Nyabitanga de la commune Guichoué, province Gitega. Le dit pont se localise à moins d'un kilomètre du lycée Guichoué sur la route provenant du chef-lieu de la dite commune menant vers la commune Bukirasazi. Béatrice Gahimbari, originaire de la colline Nyakanazi, pense que ce phénomène serait dû à une forte pluviométrie qui s'abat sur cette commune dans ces derniers jours.
Comme tout passager, je venais de la zone Nyabitanga pour me rendre au chef-lieu de la commune Guichoué. Arrivé à ce pont, il était déjà écroulé suite aux pluies diluviennes et aux eaux stagnantes qui s'y observaient.
Elle ajoute que maintenant, la route est presque impraticable.
Les véhicules ne peuvent plus y passer. À titre d'exemple, l'ambulance qui favorisait le transfert d'un malade d'un centre de santé à l'hôpital n'est plus capable d'utiliser cette route pour évacuer le patient du centre de santé de Guichoué vers l'hôpital de Nihita. Les motards qui ont du sang-froid peuvent emprunter une petite partie qui reste. Vu ses fissures sur tous ses côtés, ce pont sera détruit complètement.
Floride Nahabandi, conseillère de l'administrateur communal de Guichoué, chargée de l'administration et des affaires sociales, fait savoir que pour faciliter la circulation, l'administration ainsi que la population ont dû tracer une autre route grâce à leurs efforts.
En collaboration avec la population, nous avons tracé manuellement une autre route non loin de ce pont pour faciliter la circulation. N'eût été ces initiatives, la circulation serait quasiment impossible.
Floride Nahabandi signale néanmoins que la commune Guichoué est dans l'incapacité de réhabiliter ce pont écroulé le 28 décembre l'année dernière et demande une aide d'urgence auprès du gouvernement et des bienfaiteurs afin de reconstruire le dit pont.
Rassure-moi.
Dans cette rubrique, on parle de la déshumanisation caractérisée par des mots qui font perdre la dignité humaine. Le journaliste travaillant dans la transformation des conflits, Jérôme Nyonzima, explique que la personne et le groupe de gens déshumanisés sont dans ce cas comparés à un animal ou à un objet. Il fait savoir que ce langage est souvent utilisé lorsque des conflits entre les gens n'ont pas été réglés. Ornella Mocho.
Le discours déshumanisant, c'est une communication qui déshonore et détruit l'image chez l'homme. Jérôme Nyonzima, journaliste qui travaille dans la transformation des conflits, souligne que dans son cas, les auteurs de ces mots identifient l'individu à un animal ou un objet.
La déshumanisation, où vous prenez les qualificatifs d'un animal, d'un objet, d'un instrument, d'un outil, et vous les collez sur une personne humaine. Parfois, ce sont des mots grossiers, mais qui se cachent derrière un vocabulaire, parfois codé, qui est destiné quand même à faire déshonorer la personne de qui on parle.
Pour plus d'éclaircissements, Jérôme Nyanzima donne l'exemple des gens qui étaient appelés dans le passé des serpents.
Je pourrais donner un exemple. Quand vous me qualifiez de serpent, ça veut dire que vous voulez traduire en fait la rancune, que vous voulez traduire la haine. Mais quand vous le dites comme ça, vous avez l'impression que c'est une simple image. Mais ça va au-delà de l'image. Au-delà de l'image, il y a de la déshumanisation parce que tout ce qui caractérise un serpent, c'est différent de ce qui caractérise un être humain.
Selon toujours Nyanzima, les mots déshumanisants sont souvent utilisés dans les conflits d'intérêts.
C'est une communication qui est souvent utilisée entre des personnes ou à l'endroit des personnes envers qui on a des intérêts, où on vise les mêmes intérêts et on a l'impression qu'on ne peut pas les partager, ou alors avec qui on a des conflits, ou alors on a, disons, des malentendus ou des incompréhensions du passé qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas été traitées, ou avec qui on pense que si on n'essaie pas de ternir son image, il risque de s'emparer de ce dont vous avez besoin. C'est surtout avec les acteurs politiques que ça se fait manifester souvent.
Dans nos prochaines éditions, Jérôme Nyanzima, journaliste qui travaille dans la transformation des conflits, montrera trois conséquences qui peuvent surgir en cas de discours déshumanisant et proposera enfin une voie de sortie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Au micro Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.